Un mot pour lire dans un terme d'un grand professeur du Collège de France, ce qui peut être uni Alvax et Vernant sous une même égide, c'est celle des outillages mentaux. Car quand Fèvre, au début de la sixième section, mobilise toute une série de gens qu'il a à portée de main, y compris Coiré, mais d'autres encore, il va avoir pour ligne de conduite de mobiliser ceux qui lui permettent de développer l'analyse des outillages mentaux dont il a exposé les principes dans plusieurs épisodes, je dirais, de l'Encyclopédie française. Donc, merci Frédéric Fruteau de la Clos pour cet exposé sur Vernant.
Merci à vous. Mais bon, vous avez déjà fait le travail. Je crois que je vais revenir sur ces concepts d'outillage mental et ces relations d'anthropologie, de psychologie. Et peut-être même faudrait-il parler d'épistémologie. Vous avez évoqué.
Oui, tout à fait.
Vous avez évoqué Coiré. Tout cela, effectivement, milite en faveur d'un croisement des disciplines. Et je crois que ce colloque est une excellente occasion pour évoquer ces problèmes. Alors, d'abord, je tiens à remercier Antoine Compagnon et Céline Surprenant de m'avoir convié à parler de Jean-Pierre Vernant et la psychanalyse au Collège de France. C'est un établissement dans lequel Vernant a enseigné et fait ses recherches entre 1975 et 1984. Mais je dois d'emblée préciser que je ne suis ni helléniste ni psychanalyste. Et c'est dans ces termes même que l'ami de Vernant, l'indianiste Charles Malamud, ouvrait une allocution déjà consacrée il y a quelques années à Vernant et la psychanalyse. Je dois confesser que je ne suis pas non plus le grand savant qu'est M. Malamud, mais ça, vous l'aurez remarqué, du moins physiquement. Mais à quel titre, alors, me demanderez-vous, est-ce que je suis invité à aborder un tel sujet? Eh bien, j'interviendrai aujourd'hui en tant qu'historien et philosophe de la psychologie, j'oserais presque dire de psychophilosophe, selon une expression qui a été employée hier. Et cependant, une fois cela dit, on pourrait s'étonner parce que Vernant est plutôt connu comme un éminent anthropologue de la Grèce ancienne, la figure tutélaire de ce qu'on appelle parfois l'école de Paris. Que vient donc faire la psychologie dans ces matières anthropologiques et psychanalytiques? Pour le comprendre, il faut retracer brièvement le parcours de Vernant, ou plutôt remonter le cours d'une évolution et d'une carrière qui l'ont conduit jusqu'au Collège de France, où il occupa la chaire d'études comparées au pluriel des religions antiques. Cet intitulé lui-même a de quoi étonner, et cela doublement. Ni l'anthropologie, ni la Grèce, ni son présent. Que Vernant ait choisi d'élargir les perspectives au monde antique dans son entier, cela peut s'expliquer conjoncturellement, car le Collège comptait déjà une spécialiste de la Grèce antique en la personne de Jacqueline de Romilly. Jacqueline de Romilly avait présenté sa candidature en même temps que Vernant la sienne en 1974 et elle l'avait emportée sur lui. La chaire occupée par Jacqueline de Romilly était explicitement et spécifiquement dédiée à la Grèce. L'intitulé en était « La Grèce et la formation de la pensée morale et politique ». Vernant fut encouragé à se représenter dès l'année suivante et il succéda à un germaniste, Robert Minder. Il n'était certes pas question que son enseignement et sa recherche soient consacrés à l'Allemagne, mais il n'était pas non plus raisonnable qu'il dispense des cours sur la formation de la pensée grecque ou sur les origines de la pensée grecque. C'étaient là les objets qui avaient été au centre des travaux de Vernant dans les années 60. S'il avait procédé ainsi, la chaire aurait très manifestement fait doublon avec celle de Romilly, et il fut donc décidé que Vernant retenterait sa chance en s'inscrivant dans la lignée de Henri-Charles Puech, qui avait été détenteur au collège d'une chaire d'histoire des religions. Ce qui intéressait Vernant depuis ses premiers travaux, je l'ai dit, c'était néanmoins la formation de la pensée positive dans la Grèce archaïque ou encore les origines de la philosophie. Agrégé de philosophie lui-même, concours auquel il avait été reçu premier, Vernant avait enseigné au lycée avant d'obtenir en 1958 une direction d'études à la 6e section de l'école pratique des hautes études, sur une chaire de pensée sociale et religieuse de la Grèce ancienne. Vernant se propose de réinterroger historiquement le hiatus instauré par la philosophie elle-même lorsqu'elle s'est désolidarisée des manières de penser qui l'ont précédée. Comment rendre raison du passage des formes archaïques du mythos aux formes positives du logos philosophique? Faut-il ou non parler de miracle grec? La transition dans la pensée grecque s'est-elle faite par paliers progressifs ou au contraire à travers une franche discontinuité? À vrai dire, il y a plusieurs façons d'aborder ces questions. La première, celle qui est le plus souvent pratiquée par les philosophes, consiste en une histoire philosophante de la philosophie, une reprise du questionnement platonicien de l'intérieur de la tradition inaugurée par le fondateur de l'Académie. Certains auteurs avaient essayé de bousculer un peu les choses, comme l'antiquisant Pierre-Maxime Schull, qui avait produit une thèse dont le titre est « Essai sur la formation de la pensée grecque, introduction historique à une étude de la philosophie platonicienne ». Cette thèse a frappé Vernant, qui s'y réfère dans « Mythes et pensées chez les Grecs ». Pourtant, Schull ne compte pas parmi les maîtres directs de Vernant. Peut-être la tentative est-elle encore trop philosophante, pas assez historienne. Car l'intérêt de Vernant se porte sur la crise qui a frappé les cités grecques au Ve siècle et surtout sur la répercussion que cette crise a eue sur une multiplicité de plans. Ce concept de plan est primordial, hein. Il est amené à jouer un rôle déterminant. On a affaire avec lui à un concept véritablement opératoire qui est partout à l'œuvre chez Vernant, sans avoir nécessairement fait l'objet d'une thématisation particulière. C'est que la philosophie, pour Vernant, n'occupe qu'un plan parmi d'autres. D'économique, la crise qui a frappé les cités grecques est devenue politique, sociale, culturelle, enfin religieuse et philosophique, à travers la naissance de la pensée philosophique elle-même, qui s'est inventée dans un rapport tendu de reprise et de dépassement vis-à-vis de la pensée religieuse. Pour bien faire entendre ce parallélisme des plans, cette portée multivoque de la crise à travers relance et écho, propagation et contamination, d'un niveau à l'autre, d'un plan donc à l'autre, Vernant se réfère à un concept hérité de Marcel Mauss, dont il fait une interprétation particulière, c'est le concept de fait social total. L'unité totale de l'humain, aussi bien de l'homme grec que de n'importe quelle forme humaine de culture et de civilisation, tient à ce feuilletage des significations, à cette succession de plans. Mais force est de constater qu'au sein des plans ou des feuilles de la culture grecque, tous et toutes ne retiennent pas autant l'attention de Vernant. Sont privilégiés par lui les bouleversements ayant affecté les catégories mentales, l'outillage mental en un sens, ce que, reprenant plus spécialement les termes de son premier véritable maître Ignace Meyerson, Vernant appelle les fonctions psychologiques. La mémoire, le temps, l'espace, le travail, la pensée technique, l'image, la personne, voilà quelques-unes de ces fonctions psychologiques. Il importe à Vernant de s'interroger sur le sens que de telles notions ou fonctions ont eu pour l'homme grec, sur l'évolution de ces catégories au Ve siècle et au-delà jusqu'à nous, et cela en se penchant sur les œuvres effectivement produites à cette époque, que ces œuvres relèvent de la poésie épique, de la tragédie attique, de la philosophie, ou encore de ce qui reste, d'un point de vue archéologique, des cités ou des édifices. Et voilà le point où je voulais en venir, car se fondant sur un matériau d'une grande richesse, d'une impressionnante diversité, Vernant a été guidé par un souci de psychologue, très exactement par les principes d'une psychologie historique, objective, comparée, qui fut fondée par Ignace Meyerson, qu'il avait rencontré à Toulouse pendant la Seconde Guerre mondiale. À croire que l'intériorité, que l'humanité, que l'essence de l'homme se laisse appréhender par simple réflexion, les philosophes se sont engagés dans les pires divagations spéculatives. On ne comprendra quelque chose à l'esprit humain qu'à s'attacher aux produits a posteriori de la pensée. Ces produits sont des comportements, ce sont des actes, ce sont enfin et surtout des œuvres. C'est donc du dehors qu'on appréhendra l'esprit dans des objets qu'il a lui-même formés ou forgés, objets de culture et de civilisation, qui sont à considérer comme autant d'objectivation du mental. D'où, aussi étrange que cela paraisse pour une psychologie, science de l'âme ou du sujet, la qualification immédiatement accolée à la discipline, eh bien, il faudra pratiquer une psychologie dite objective. Mais qu'on ne s'y trompe pas, hein. Les œuvres ne sont qu'un point de départ, il n'est pas question pour Meyerson et Vernant après lui de s'en tenir à elles, de réfuter l'existence d'un homme intérieur, c'est une expression qui revient souvent sous la plume de Vernant. De ce point de vue, la psychologie objective ne se rapporte pas aux œuvres comme le béhaviorisme au comportement, et elle se sent en revanche beaucoup d'affinité avec les travaux de Pierre Janet, pour qui l'attachement aux actes a toujours eu pour fin la description de ce qui se passe en nous, en l'occurrence la considération, chez Janet, de la variation de la quantité de force ou de niveau de tension de l'esprit. Il ne faut pas négliger pour autant la grande différence qu'il y a entre Meyerson, Vernant d'un côté et Janet de l'autre, au terme de l'induction du mental à partir des œuvres ou des actes. Car une fois entré dans la machinerie du mental, la psychologie objective constate que tout, y compris les facultés ou les catégories, est soumis à variation. Ce n'est pas seulement que l'imagination diffère de la mémoire, ça va de soi, mais c'est plutôt que l'imagination et la mémoire, chacune pour son compte, ne cessent de différer d'elles-mêmes. Ce qu'un grec appelle mémoire et ce qu'il appelle imagination, cela n'a rien à voir avec ce qu'un homme du Moyen-Âge appréhende sous ce nom, ni rien à voir avec ce que nous, aujourd'hui, entendons par mémoire ou par imagination. Autrement dit, si elle s'attache vraiment aux œuvres, la psychologie objective doit arriver à la conclusion que l'esprit est chose mouvante. Il n'y a aucune fixité du mental, l'homme intérieur est toujours pris dans le cours d'une évolution, dans l'élan d'une histoire. Et dans ces conditions, la psychologie objective devra se reconnaître encore deux caractéristiques qui participent essentiellement de son essence, de sa définition. Elle devra être comparative d'une part et historique d'autre part. Comparative car, comparant les œuvres, elle ne pourra qu'être frappée par l'importance de la variabilité historique dans la constitution de l'outillage mental. Dès lors, psychologie historique objective comparée. Voilà l'intitulé complet de la discipline que Meyerson lègue en quelque sorte à Vernant. Or, on le voit, ce qui est en jeu ici, c'est une lutte contre toutes les espèces de fixisme. Vernant pouvait espérer que le travail accompli par Meyerson aurait porté un coup d'arrêt définitif au fixisme, à ce qui est dit fixisme en psychologie, par Meyerson aussi bien que par Vernant. Mais il n'en a rien été, car le fixisme renaît de ses cendres dans et par le mouvement psychanalytique. Tel est, du moins, le diagnostic que portent les représentants de la psychologie historique. On le sait, vous le savez, cela a été déjà dit hier, Meyerson lui-même a été le premier traducteur de la Traumdeutung en français en 1923. C'était une commande émanant d'un éditeur. Mais Meyerson lui-même n'a jamais adhéré à la psychanalyse et il s'est au contraire réjoui des réticences exprimées par la pensée française, médecine, psychologie et philosophie comprises, face au mouvement initié par Sigmund Freud. Il a ainsi manifesté très clairement son soutien à la charge antipsychanalytique menée par son collègue, le philosophe et psychologue Charles Blondel. De même, il a peu parlé, Meyerson, de la psychanalyse, préférant la tenir à distance. Mais on trouve ici ou là des comptes rendus, par exemple, de l'anthropologie culturelle américaine nourrie de psychanalyse, qui déplore le fixisme chez des savants de terrain. Bon, le fixisme, par exemple, de Ralph Linton dans Le fondement culturel de la personnalité. Et Dieu sait pourtant que cette anthropologie culturelle américaine est souple à l'égard de la psychanalyse, dans sa reprise même de la psychanalyse. Alors, sans doute, Vernant a-t-il dans un premier temps estimé que ces débats internes à l'histoire de la discipline psychologique, il ne lui revenait pas de les prendre en charge, lui qui avait décidé de s'attacher seulement à l'homme grec intérieur, en vue de mettre au jour le sens si particulier qu'avaient en Grèce ancienne les diverses fonctions psychologiques. Mais voilà qu'un psychanalyste français, Didier Anzieux, s'aventure sur son terrain. Anzieux s'est mis en tête de parler d'Oedipe, la pièce de Sophocle, pour montrer la justesse de l'interprétation freudienne des mythes grecs. L'article qui va déclencher l'ire de Vernant a pour titre « Oedipe avant le complexe » ou « De l'interprétation psychanalytique des mythes ». La réponse cinglante de Vernant paraît un an après cet article de 1966, donc en 1967. La réponse en question a pour titre « Oedipe sans complexe » et elle paraît dans la revue « Raison présente ». Elle sera ensuite reprise dans « Mythes et tragédies en Grèce ancienne », co-signée avec Vidal Naquet. L'analyse remarquable de clarté et d'efficacité, qu'on soit d'accord ou non avec ses conclusions, se déploie en trois temps. Le premier temps est celui de la position du problème et de l'opposition des méthodes. Le problème est que la psychanalyse se rapporte à la tragédie comme à une psychanalyse. Ce faisant, le psychanalyste se rend coupable d'un cercle vicieux aux yeux de Vernant. La théorie freudienne trouve sa confirmation dans Oedipe roi de Sophocle, mais la pièce est elle-même lue ou interprétée à l'aune de la théorie des pulsions. Or, au lieu de postuler l'universalité des schémas topiques et de les projeter sur une pièce antique, le psychanalyste devrait s'employer à se situer historiquement, tout en situant historiquement son objet. À une démarche si peu rigoureuse s'oppose la méthode de la psychologie historique. Je rends compte ici strictement du point de vue de Vernant. Celle-ci, loin de projeter des cadres d'analyse préexistants, part de l'œuvre, en l'occurrence des textes tragiques, et s'emploie à les rattacher à leur contexte historique. Elle est ainsi conduite à dévoiler une multiplicité de dimensions ou de plans saisis dans leur complexe nouage littéraire. L'analyse linguistique, thématique, dramatique révèle au cœur de la tragédie une signification historique, sociale, mentale, singulière. Elle fait en particulier apparaître une tension interne à la pensée grecque du Ve siècle. Se dégageant d'un arrière-plan religieux qui forme encore le fond de la légende héroïque, de nouvelles valeurs émergent qui tendent à représenter l'homme comme un agent plus ou moins autonome, comme un individu libre, responsable de ses actes. Mais le héros tragique se situe ainsi entre deux plans. Bourgeois d'Athènes au milieu de ses concitoyens, donc évoluant dans un monde humain, il est également confronté à la présence des dieux qui ne cessent de planer au-dessus de sa tête. La difficulté est que la psychanalyse, et notamment Anzieux dans son article de 1966, ne veut rien entendre de cette complexité. Évidemment, ici, il faut opposer au complexe d'Oedipe la complexité de l'œuvre elle-même, selon Vernant. Tout simplement parce qu'aux yeux de Vernant, Anzieux procède par simplification successive, de toute la mythologie à une légende, de toute la tragédie à une pièce, de cette pièce à un de ses éléments, de cet élément à un rêve. Il faut donc s'engager dans une série de désimplifications successives, de recomplexifications progressives. Et Vernant s'y emploie en abordant pour commencer, c'est le deuxième temps de la critique après la question de la méthode, en abordant donc, pour commencer, l'interprétation psychanalytique générale des mythes. Je ne veux pas entrer dans le détail des analyses. L'important à mes yeux est qu'il y ait des détails qui témoignent pour l'essentiel variabilité des structures, relative elle-même à l'essentielle évolution des fonctions. Quelques points tout de même. La castration d'Ouranos n'a pas le caractère proto-oedipien éclatant que lui reconnaît Anzieux. La virginité d'Athéna est préservée, mais ça ne tient pas, contrairement à ce que dit Anzieux, au désir inconscient de son père Zeus, mais à son statut de guerrière. Enfin, confondre l'attachement filial d'Antigone pour son frère Polynice avec un désir sexuel, c'est aller à l'encontre de la psychologie grecque elle-même. Dans tous ces cas, et c'est encore Vernant qui parle ici, le psychanalyste prend ses rêves pour des réalités, loin que la psychanalyse nous renseigne sur la réalité du fonctionnement psychique via l'analyse des rêves grecs. La psychologie historique entend au contraire se situer à hauteur d'homme. Elle propose de comprendre l'homme grec intérieur en s'en tenant à ce que lui-même a pensé et produit, d'éclairer le sens de la psyché grecque à la lumière de l'analyse structurale de ses œuvres. Soit pour terminer, je parle ici de l'analyse livrée par Vernant lui-même, l'interprétation oedipienne d'Oedipe, la pièce de Sophocle, eh bien, il apparaît que quelles que soient les raisons ou les nécessités qui ont présidé à la construction de la pièce, elles sont étrangères à la psychologie des profondeurs. Elles sont d'abord d'ordre esthétique et religieux, esthétique parce qu'il faut préparer psychologiquement et dramatiquement la découverte par Oedipe de sa propre identité, et religieux dans la mesure où l'oracle doit être énigmatique sans jamais être mensonger. Or, par-delà ces contraintes, ce qui importe à Sophocle, note Vernant, est de faire valoir en Oedipe un héros doué d'une hubris propre au tyran. La jalousie à l'égard de Créon en découle, qui pourrait lui ravir son trône. Par-dessus tout, donc, Oedipe craint une basse naissance, un sang dont il devrait rougir. Il n'est pas jusqu'aux relations entre Oedipe et Jocaste qui ne trouvent leur sens dans des raisons psychosociales ou psychopolitiques, et c'est là la trouvaille en quelque sorte de Vernant au terme de son développement. Hein. Aucun sentiment maternel ne lie Jocaste à Oedipe, mais Sophocle ne cesse d'insister sur le caractère dominateur, autoritaire et tyrannique du héros. En somme, s'il y a un symbolisme grec du rêve, ce symbolisme est psychopolitique ou psychosocial. Le rêve a une signification grecque comme il a d'autres significations historiques. Il faut inciter les psychanalystes à historiciser leurs pratiques, l'idéal étant même de parvenir à historiciser la psychanalyse elle-même. Car la psychanalyse ne représente qu'une étape dans la longue histoire des projections ou des constructions psychologiques de la signification du rêve. La psychanalyse est une clé des songes parmi d'autres que la psychologie historique a pour vocation de décrire et d'expliquer. Alors, il n'est pas question pour moi de me prononcer sur le fond de cette controverse, puisque, je le répète, je ne suis ni helléniste ni psychanalyste, et je n'opposerai pas les érudits bornés aux psychanalystes audacieux ou les antiques qui sont sérieux aux psychanalystes qui prennent leurs rêves pour des réalités. Je voudrais juste souligner un point. Il me semble que la position du problème gagne à être clarifiée, et peut-être sa solution sera-t-elle favorisée, si l'on précise que la discussion n'a de sens qu'à tenir compte de la visée proprement psychologique de Vernant à cette époque. C'est en psychologue, et en psychologue appliquant strictement le programme de Meyerson à l'homme grec, que Vernant s'attache à l'interprétation psychanalytique des mythes grecs. Cette visée psychologique est signifiée par les conditions d'insertion de l'article Oedipe sans complexe, qui porte entre autres sur Oedipe Roi, dans le recueil de Vernant paru en 1972, Mythes et tragédies en Grèce ancienne. Cet article vient juste après un très long hommage rendu à Meyerson, ébauche de la volonté dans la tragédie grecque. Tout cela n'apparaît plus après coup, dans la mesure où Vernant a cessé de se présenter comme un psychologue. Il est devenu, selon ses propres termes, anthropologue de la Grèce ancienne. Alors, plusieurs problèmes ici. Hein. De quand date cette réorientation? Quelles en sont les raisons? Et quelles en sont les implications pour la compréhension de notre débat? Nicole Laureau, l'éminente helléniste, a daté la transmutation de la préface à l'édition de 1968 d'articles de l'helléniste Louis Gernet, Anthropologie de la Grèce antique. Gernet est une autre influence déterminante sur le parcours de Vernant. Si Meyerson a fourni la méthode, Gernet en quelque sorte a porté son expertise sur l'objet de l'étude. C'est au contact de Gernet que Vernant a choisi d'appliquer les principes de la psychologie historique à l'homme grec. Mais plus que la figure de Gernet, ce qui importe, à mon sens, c'est le contexte anti-humaniste de la publication des textes de Gernet. Ce contexte contribue à éclairer la réorientation anthropologique de Vernant. Vernant a été particulièrement irrité alors par la proclamation due à Michel Foucault, je parle du texte « Les mots et les choses », de l'effacement de l'homme comme objet de science. Comme si l'on ne pouvait plus penser que dans le vide de l'homme disparu. Vernant ne croit pas que l'homme soit effacé ou effaçable du tableau des sciences, comme il le dit clairement dans un débat du milieu des années 60 à la Sorbonne, si vous chassez l'homme par la fenêtre, pardon, en l'occurrence il va revenir par la fenêtre, mais il est d'abord chassé par la porte. Si vous chassez l'homme par la porte, il revient par la fenêtre. Or, ce que voit malgré tout Vernant, c'est que la psychologie telle qu'elle s'est organisée depuis la fin de la guerre, elle ne laisse plus de place aux attendus de la psychologie historique. Si l'unité de la psychologie est à assurer entre psychologie clinique et psychologie expérimentale, selon les termes fameux du psychanalyste Daniel Lagache, alors il n'y a pas grand-chose à attendre pour la psychologie historique. L'entreprise meyersonienne n'a pas sa place dans un tel tableau, pas plus que Meyerson lui-même n'avait trouvé de place à la Sorbonne. Je rappelle que, postulant sur une chaire de psychologie à la Sorbonne en 1948, Meyerson avait été battu par Lagache. L'horizon n'est cependant pas totalement bouché pour l'ambition meyersonienne, car d'autres alliés se sont présentés qui ont commencé à rendre de précieux services à l'étude de l'homme grec. Ces alliés se trouvent du côté des anthropologues et ces services ont été proposés par Marcel Détienne, qui s'est formé à l'école de Claude Lévi-Strauss et qui, de retour chez les hellénistes, s'est engagé dans une vaste application de l'analyse structurale au matériel mythique grec. Dans le premier volume de Mythes et tragédies de Vernant, le mouvement qui mène de la psychologie historique à une anthropologie historique est en marche. Œdipe sans complexe, il est introduit par une réflexion de psychologie historique sur la fonction d'agent et la notion de volonté, conforme aux attendus de la psychologie historique de Vernant, est suivi par un hommage rendu à Lévi-Strauss, consacré à la structure énigmatique de Diproie, faite d'ambiguïté et de renversement. Il est vrai que l'ambiguïté a une signification, une implication psychologique. En l'occurrence, l'ambiguïté ou l'indécidabilité de la structure de la pièce en certains de ces moments témoigne pour la difficulté grecque à élaborer une conception ferme du sujet de l'action, une notion claire de la volonté libre. Et de ce point de vue, c'est encore de la psychologie historique. Mais progressivement, dans l'hommage à Lévi-Strauss et au-delà, le versant psychologique de l'analyse tend à s'atténuer, cependant que l'ambition historienne est plus que jamais affirmée. L'objet même d'une anthropologie historique sera d'introduire le mouvement de l'histoire dans l'analyse des structures, de doubler les moments d'analyse structurale par une attention soutenue à l'évolution des structures. Il n'existe de structure que par rapport à une histoire, voilà la thèse finalement que finira par soutenir Vernant à travers ses ultimes travaux. L'anthropologie historique répond à une anthropologie structurale tout en l'encadrant. Alors, une première question ici pourrait se poser. Est-il vrai que tout, fonction, structure, œuvre, soit pris dans un flux permanent ? Ne faut-il pas reconnaître des invariants transhistoriques ou transstructurels ? Aussi bien formels et abstraits qu'ils puissent être, le formalisme et l'abstraction étant à interpréter ici comme l'ensemble des filets permettant d'appréhender la richesse des œuvres advenues dans l'histoire sans la forcer ni la déformer. C'est ce que les hellénistes, les premiers, ont pointé, qu'il s'agisse de Marcel Détienne ou de Nicole Laureau. Il se pourrait que la reconnaissance d'un terrain commun minimal soit l'un des réquisites fondamentaux du comparatisme et de la pratique historienne appelée par Meyerson et Vernant. Comment en effet comprendre les Grecs si comprendre n'a pas le même sens chez eux et chez nous ? Mais un tel questionnement est encore anthropologique et je voudrais soutenir pour finir qu'il y a quelque intérêt à ramener le débat ouvert ou réouvert par Vernant sur les terrains de la psychologie. Et de fait, Vernant a vécu assez vieux pour voir apparaître un nouveau genre de psychologie sollicitant l'expertise de la psychologie historique, objective, comparée. Au soir de sa vie, il devait revenir sur l'œuvre de Meyerson à travers un certain nombre de contributions finalement rassemblées dans « Entre mythes et politique ». À mon sens, il ne faut pas seulement y voir le retour sur le chemin parcouru et sur les maîtres qui orientèrent son cours. Aussi bien l'état de la discipline psychologique a-t-il conditionné un tel retour ? Cet état, quel est-il ? Eh bien, pour le dire vite, une nette domination de la psychologie expérimentale qui, sous le nom de sciences cognitives ou de neurosciences, tend à déborder les limites mêmes de la psychologie pour s'avancer sur le terrain de la philosophie à travers une multitude de philosophies de l'esprit. Et au cœur de cette domination, l'amorce d'un tournant historico-culturel qui retrouve, après bien des errements, les intuitions de Meyerson. Je voudrais rendre hommage ici aux travaux de Jérôme Bruner, qui est mort le 5 juin dernier à l'âge de 100 ans. Immense psychologue américain, initiateur des sciences cognitives après la Seconde Guerre mondiale, il fut progressivement amené à souligner l'importance pour la psychologie des médiations historiques et culturelles. Il a même fini par se reconnaître dans l'entreprise meyersonienne au point de sous-titrer en français un de ses ouvrages, « L'esprit humain dans ses œuvres ». Il fut même invité à prendre la parole à l'occasion d'un colloque pour une psychologie historique, et il a commenté en détail des articles de Meyerson. Cependant que Vernant voyait ses premiers enthousiasmes psychologiques réactivés par la découverte dans les archives de Meyerson d'une esquisse de 1942 de psychologie de la volonté et de l'agentivité. Ce qui est en jeu dans toutes ces questions, proprement psychologiques, c'est le difficile problème de la fixation naturaliste de l'esprit, à laquelle s'oppose dans certains courants de psychologie culturelle l'hypothèse d'un constructivisme corrélé aux évolutions sociales et historiques des individus ou des collectifs. Quel bilan fera-t-on du côté de la clinique ? Car c'est autour de ce nœud disciplinaire ou sous-disciplinaire, évidemment, que la polémique a surgi entre Vernant et Anzieux. Il se trouve que l'universalité de l'Œdipe a été contestée en philosophie même. Et je pense ici à la conception renouvelée de la psychanalyse baptisée schizoanalyse par ses inventeurs, Gilles Deleuze et Félix Guattari. Ces derniers s'appuyaient sur les travaux de l'anthropologie africaniste française, qu'il s'agisse d'Adler, de Cartry ou encore d'Ortigue, et ils ne perdaient pas une occasion de se référer à Vernant et Détienne. Pour autant, ils ne se sont jamais appuyés sur Meyerson, ils n'ont pas cru devoir intervenir dans les controverses agitant la psychologie. C'est que pour eux, comme pour Lacan avant eux, la psychanalyse est une antipsychologie. Revenir sur les présupposés de l'analyse freudienne puis lacanienne ne signifie pas, à leurs yeux, restaurer des doctrines psychologiques, remettre au travail des concepts proprement psychologiques. Et pourtant, je pose la question, quelle forme pourrait prendre un retour à la psychologie par-delà le retour à Freud de Lacan, par-delà l'opposition schizoanalytique à Lacan de Deleuze et Guattari? Il ne serait peut-être pas si aberrant que cela d'envisager la réhabilitation d'une énergétique qui serait psychologique sans être psychanalytique. Si tel était le cas, on aurait affaire à un invariant, qu'on appelle l'énergie, la force, la puissance, un invariant susceptible par ses métamorphoses mêmes de rendre compte de toutes les configurations historiques et culturelles attestées dans le devenir de l'humanité. Une telle histoire, au fond, a été esquissée par Deleuze et Guattari dans le chapitre central de l'Anti-Oedipe, sauvage, barbare, civilisé. Mais je songe surtout ici à la vision qu'offrait déjà l'œuvre de Pierre Janet à travers le tableau des fonctions, dans son hypothèse d'un profond travail des forces psychiques subconscientes, d'une activation de sa force selon les niveaux de tension psychologique des sujets ou des communautés. Il s'agirait en somme de reculer d'un cran dans l'histoire de la psychologie, de régresser de Meyerson à celui que ce dernier reconnaissait comme un de ses maîtres, mais plutôt que de reprocher à Janet d'avoir admis la fixité d'une énergétique des forces et de la tension psychique, c'est ce que faisait Meyerson, on se réjouirait que Janet ait postulé une telle invariance, elle et elle seule, permet de rendre raison de la variation de l'outillage mental, ainsi que des différences dans la structuration des œuvres. Je vous remercie.
Merci pour cet exposé que je qualifierais, là aussi en prenant un mot du vocabulaire févrien, de robuste, et qui nous... où la stratification, vous avez fait une analyse stratifiée que je trouve tout à fait éblouissante et aussi pertinente quant à la restauration de l'importance d'Ignace Meyerson, qui, dans toute l'histoire que nous avons racontée hier et aujourd'hui, joue un rôle fondamental. Alors, ah oui, Céline a peut-être pris le micro, voilà.